Eh bien, bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir pour moi, une grande joie d'être là parmi vous et de pouvoir une nouvelle fois partager cette merveilleuse parole de notre Seigneur. J'espère que vous avez passé ces derniers mois dans de bonnes conditions et que vous êtes bien motivés, bien disposés pour la reprise de nos activités cultuelles. Fou en Christ. On va parler de folie cet après-midi. J'aimerais juste rebondir sur la dernière phrase que nous avons lue. Afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. La sagesse des hommes contre la puissance de Dieu. Vous savez ce que Dieu pense de la sagesse des hommes, hein. Cette sagesse est folie pour Dieu. Que ceux qui se croient sages sont fous au regard de Dieu. Bon, la folie, c'est une notion relative, hein. D'ailleurs, qu'est-ce que la folie? J'ai relevé quelques petits exemples pour illustrer un peu. C'est un dérèglement mental, une démence. On parle de sombrer dans la folie. C'est aussi un manque de jugement, hein. C'est fou de faire ça, par exemple. C'est des idées, c'est des paroles, c'est des actions déraisonnable, insensé. Par exemple, des folies de jeunesse, hein, ou dire des folies. C'est des dépenses excessives, inconsidérées. J'ai dépensé avec folie, sans réfléchir. C'est aussi un engouement, c'est une passion, c'est des vifs penchants pour quelque chose. La folie du jeu, par exemple. Voilà, ça c'est pour illustrer un petit peu les différents aspects. Et nous, ce qui nous intéresse cet après-midi, c'est justement que notre foi, elle soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. La plus grande des folies, peut-être, que l'on peut trouver dans la parole de Dieu, en tout cas une des plus grandes, c'est la folie de la croix. La parole de la croix est folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. On veut vraiment les opposer. Comme l'enseigne Paul, Dieu utilise les choses que le monde considère comme folles pour sauver ceux qui vont devenir croyants. Et on trouve ça dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, à partir du verset 18. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Voilà, la compréhension est complètement différente lorsque nous avons accès à cette parole. Aussi est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, Dieu a donné la sagesse aux hommes, mais ils n'ont point connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Et il a donc plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Là, Dieu utilise vraiment dans sa parole des termes aussi forts que la folie. Vous êtes fous de ne pas croire à cette parole qui est puissance de Dieu, qui est vérité. Les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Donc on voit que quelle que soit la culture, la parole de Dieu est folie pour ceux qui n'y croient pas. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Et à la fin de ce chapitre, « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur et pas dans sa sagesse, entre guillemets, ou ce que nous pouvons considérer comme sage. Il y a aussi la folie concernant les choses du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14, « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont folies pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Hein, » L'homme animal, l'homme insensé, l'homme fou. Pour la plupart, nous avons passé quelques temps en vacances, hein, de plus ou moins courte durée. Nous avons rencontré différentes personnes dans différentes circonstances. Ça a été peut-être l'occasion de parler de notre foi. Et en discutant avec ces personnes-là, est-ce qu'on s'est aperçu qu'elles possédaient la sagesse ou la folie? Peut-être qu'elles nous ont dit « tu es fou de croire ça ». Oui, mais ma folie, je sais d'où elle vient. Parce que ma folie d'homme, c'est la sagesse de Dieu. Ce que tu considères comme une folie, c'est la sagesse de Dieu. Dans toute la Bible, quand on prend du recul, quand on prend de la hauteur, quand on se refait un petit balayage dans sa tête de ce qui s'est passé dans la Bible, de toutes ces histoires, on voit qu'elle est remplie de folie. Aux yeux des hommes. Dans Osée, chapitre 9, verset 7, c'est vrai que ce n'est pas forcément les livres que l'on va lire, et pourtant, ils arrivent les jours du châtiment, ils arrivent les jours de la rétribution. Israël va l'éprouver. Le prophète est fou. L'homme inspiré à le délire à cause de la grandeur de tes iniquités et de tes rébellions. De nombreux contemporains du prophète Osée pensaient que le prophète était fou, les prophètes étaient fous. Et pourtant, ce sont des hommes inspirés de Dieu, avec la sagesse de Dieu. Et là, tout de suite, on pense à Noé. Noé, quel grand fou! Quel grand fou aux yeux des hommes! Construire une arche dans un endroit où il n'y a pas d'eau. Vous imaginez la scène? Il est fou, ce Noé. Tout le monde rigolait de lui. Tout le monde se moquait de lui. Mais Noé savait ce qu'il faisait. Il obéissait à la sagesse de Dieu. S'il n'avait écouté que les hommes, il n'aurait même pas commencé. Mais oui, Seigneur, ils ont raison. C'est fou de construire une arche dans un endroit désert, en tout cas dans un endroit sans eau. L'étendue d'eau est tellement lointaine qu'elle ne peut pas venir jusqu'ici pour porter le bateau. Mais Dieu a dit non, l'eau, elle viendra d'en haut. Et quand on aura suffisamment, le bateau va flotter. Et quand le bateau a commencé à flotter, enfin même avant que le bateau flotte, quand Dieu a fermé la porte, les hommes sont restés avec leur folie. Et Noé est resté avec la sagesse de Dieu. Genèse chapitre 6, verset 12-15, hein, « Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois, et ainsi de suite, et ainsi de suite. » Elle aura 150 mètres de long, 25 mètres de largeur et 15 mètres de haut. C'était pas un petit bateau, hein. Quand vous imaginez un peu ce que ça représente. 150 par 25 par 15 mètres. Et puis il y a eu d'autres hommes fous, hein. On pense aussi à Abraham. Abraham, il a eu tellement de mal à avoir un fils qu'au moment où il a ce fils, Dieu lui dit d'offrir son fils en sacrifice. Mais quelle folie! Seigneur, c'est une folie ce que tu me demandes là. Genèse chapitre 22, versets 1 et 2. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, Abraham. Abraham lui a répondu, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, il précise bien. Celui que tu aimes, rajoute-t-il, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Moi qui suis parent, si Dieu m'avait demandé d'emmener mon fils ou ma fille sur une montagne pour l'offrir en holocauste, Imagine, je ne sais pas comment j'aurais réagi. Et Abraham a dit, Seigneur, me voici. Et il est allé, mais vous connaissez la suite, le fils n'est pas mort. Mais Abraham a obéi. Hein, cette pensée qui l'a saisie peut-être en disant, mais c'est fou. Non, c'était la sagesse de Dieu. Parfois, Dieu va loin hein, pour tester notre obéissance. Jusqu'à... Mais sa sagesse reprend le dessus. Et Moïse qui va défier Pharaon, un des plus puissants de son époque. Il va voir Pharaon et lui dit, maintenant Dieu dit, tu vas laisser partir mon peuple. Vous imaginez la réaction de Pharaon, il aurait juste pu dire, tiens Moïse, toi tu prends, tu vas en prison, ou alors on va t'éliminer. C'était une folie de penser que d'aller voir Pharaon en disant, tu vas laisser partir les esclaves. Les esclaves, c'était la main d'œuvre. En plus, c'est une main d'œuvre gratuite. Il dit à un chef d'entreprise, je vais t'enlever tous tes ouvriers. Comment va-t-il réagir? Vous connaissez la suite. Hein, là, on trouve ça dans Exode. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Il avait probablement un bégaiement. Alors imaginez, je vais voir Pharaon et je bégaye. Vous imaginez un peu le tableau? L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? C'est toi ou c'est moi? Non, c'est moi. Il n'y a pas de handicap devant le Seigneur. Il n'y en a aucun. Et Dieu dit, et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Il dit, mais c'est fou, c'est un plan fou, Seigneur. Tu peux pas me demander ça. Je n'ai pas les outils. Je ne suis pas équipé. Je ne sais pas bien parler. Je ne sais pas bien m'exprimer. Je ne suis pas cultivé. Qu'est-ce que je vais expliquer comme plan à Pharaon? Seigneur dit, te pose pas la question. C'est pas toi qui vas parler. Je vais parler au travers de toi. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. À un moment donné, Moïse, tu dis me voici ou tu dis pas me voici, mais c'est moi qui t'envoie. Et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement, le voici lui-même, il est déjà en route. Voilà. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Vous vous rendez compte un peu la responsabilité? Mais il est parti avec la sagesse de Dieu. Pas avec sa propre sagesse, qui n'en était pas une du tout. Allez, encore un autre exemple pour montrer un petit peu quelles sont les différentes folies que l'on peut rencontrer dans la parole de Dieu. David qui va défier Goliath, le tout petit contre le plus grand. Pas même un soldat, David, un adolescent. Un petit berger qui jouait avec ses petits moutons. Si, il aimait bien utiliser sa fronde pour chasser les loups. Donc il s'est entraîné, mais c'était un exercice, hein, pas pour faire autre chose. Même son frère, le rabrou, il lui dit « Pourquoi es-tu descendu? On n'a pas besoin de toi. D'ailleurs, tu pourrais servir à quoi ?» Va t'occuper des brebis. Il dit, je connais ton orgueil et la malice de ton petit cœur. Petit prétentieux, espèce de vaurien, c'est pour voir la bataille que tu es descendu. Sympa comme commentaire de la part du frère. Mais David n'en a que faire. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et lui fit les mêmes questions. Le peuple répondit comme la première fois, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Ben voilà, il y a un gars en face, il s'appelle Goliath, il fait peur à tout le monde, et personne ne veut avancer, veut s'avancer contre lui. Et pourtant, le gars, il va un contre un. Plutôt que d'envoyer toute l'armée contre toute l'armée, c'est un contre un. Et celui qui gagne, c'est le vainqueur pour toute la troupe. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Mais il est fou. Il est fou, ce David. Et c'est pas pour ça que tous les autres sont sages, hein, de ne pas être allés. Hein. Saül dit à David, le roi Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Il est homme de guerre dès sa jeunesse, celui qui est en face. Et en plus fort comme un bœuf. Et vous connaissez la suite. Il a suffi d'un petit caillou. Et le géant a été terrassé. Il y a peut-être des géants dans notre vie. Parfois, il ne faut pas grand-chose pour les terrasser. La sagesse de Dieu. Et puis Daniel aussi, qui défia les rois. Décidément, il y a beaucoup d'histoires avec les rois. C'est-à-dire qu'il démontre la puissance. Hein, pas un homme contre un vulgaire homme, si je permettais de parler comme ça. Mais souvent, c'est face à un roi. C'est face à une puissance qui a été reconnue, qui a été instituée. À l'époque, c'est comme, enfin, aujourd'hui, c'est comme si vous alliez défier Poutine ou quelqu'un d'autre. Vous imaginez? Daniel, on lui a dit non, interdiction de prier Dieu là. Hein. Tes prières, tes machins, non, tu as le roi à respecter, à obéir et tu devrais te prosterner devant lui. Daniel, il dit que nenni. Non. Non. Daniel 6, verset 11. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Ouvert, hein. Pas fermé, les volets fermés, dans le noir. Hein. Et trois fois par jour, il se mettait à genoux, il priait, louait Dieu, comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu, le même que le nôtre. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale, « N'as-tu pas écrit une défense, un édit, une loi, une interdiction ? Il est interdit de... » Et là, donc tu as écrit que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, au roi, serait jeté dans la fosse aux lions. Le roi répondit, la chose est certaine. Oui, c'est vrai, je l'ai écrit, c'est signé. J'ai mis mon sceau. Et ils dirent au roi, eh ben, il y a un gars, Daniel, lui, il fait ce qu'il veut. Captif, en plus. Daniel, c'est un captif, hein, captif de Judas. C'était pas un sujet du roi. Eh ben, lui, là, David... Daniel, ben lui continue à prier. Il fait fi de ce que tu as écrit. Et il fait même sa prière trois fois par jour. Et vous connaissez la suite? Ah, il est allé dans la fosse aux lions. Ouais. On aurait pu dire, mais t'es fou, Daniel, t'es fou. Enfin, fais ça discrètement. Prie discrètement. Va pas t'attirer les foudres du roi. Daniel dit non. Non, je sers mon Dieu, je le sers pas en secret, je sers mon Dieu. Et il est allé jusqu'à se retrouver dans la fosse aux lions. Et là, les lions, c'était des gros chats. Plein d'amour, plein de câlins. Il n'a même pas eu une égratignure. Pourtant, je peux vous dire qu'à l'époque, hein, quand on mettait quelqu'un dans la fosse aux lions, le lion, il avait faim. Au moins, on le privait de nourriture avant pour être sûr que le résultat soit là. Et on va terminer sur deux exemples. Ben Paul, voilà Paul. Paul, la sagesse de Paul au début, hein, persécuteur de l'Église, et puis après sa folie de se convertir, de croire en Dieu, celui qu'il persécutait. Acte 26. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et devant les grands. Quand il dit les grands, c'est pas les personnes de grande taille, ni les petits, les personnes de petite taille, mais les grands, c'est-à-dire les autorités. Sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, savoir que le Christ souffrirait et que, ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix, « Tu es fou, Paul ! Ton grand savoir te fait déraisonner !» Eh oui, la folie de la croix, la folie des paroles de Paul devant la soi-disant sagesse des hommes. Et Paul dit, « Non, mais non, je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou, très excellent Festus, répliqua Paul, ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. » Et dans 1 Corinthiens 4, au verset 9 et 10, notamment sur le verset 10, « Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts, vous êtes honorés et nous sommes méprisés. » Et enfin, la folie de Jésus. Jésus, mais t'es fou de t'occuper des boiteux, des malades, des bancals, des possédés. Laisse-les faire. Laissez, de toute façon, ils ne servent à rien pour l'humanité. À l'époque, vous étiez infirme, boiteux, vous étiez en marge de la société. Vous étiez exclu. Les lépreux, n'en parlons pas. Hein, ils n'avaient pas le droit de travailler, ils n'avaient pas le droit de vivre, ils ne devaient faire que mendier. Qu'est-ce que Jésus, tu vas aller t'occuper de ces gens-là? Occupe-toi de ceux qui sont, voilà, qui ont un peu d'argent, qui, voilà, qui font la fête, qui, voilà, va, eux, au moins, ça sera bien. Ben non, voilà, la folie et la sagesse. La folie et la sagesse de Jésus. Il y en a même certains qui ont dit, mais il est fou, il est possédé. En entendant parler Jésus, on dit, mais ça va pas, il parle du royaume de Dieu, il parle de, si vous croyez, vous serez sauvés, enfin, c'est pas possible. Dans Jean chapitre 10, verset 19, hein, il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous? Eh oui, la sagesse de Dieu contre la folie des hommes, ou la folie de Dieu, si je peux dire ça comme ça, contre la sagesse des hommes. Et on sait que Dieu n'est pas fou. Dans Romains chapitre 3, verset 9, quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Il n'est nullement besoin d'utiliser de méthodes empreintes de la sagesse humaine pour convaincre et annoncer l'Évangile. Seul Dieu, par son Saint-Esprit, convainc les cœurs les plus endurcis par la puissance de sa parole proclamée. Paul était arrivé à cette conclusion audacieuse, « Nous sommes fous à cause de Christ. Nombreux étaient ceux qui pensaient que les chrétiens avait perdu le contact avec la réalité. » Combien souvent nous nous retrouvons dans ce schéma, et on peut se retrouver devant ce schéma en parlant à des tiers, ils nous disent « Mais t'es complètement taré. T'as pris des substances. C'est pas possible de parler comme ça et de croire en cela. » Oui, nous pouvons rencontrer, nous rencontrons des gens qui pensent ça et qui penseront ça de nous. Mais amen, gloire à Dieu, si quelqu'un dit qu'on est fou, oui, je suis fou en Christ. Acceptez d'être fou en Christ. Acceptez. Les gens, vous savez, se laissent facilement prendre par les façons d'être, les styles qui sont à la mode, hein, pour ceux qui semblent normaux. Hein, il faut paraître normal, hein, il faut être dans la norme. Mais si nous voulons être sages dans les choses de Dieu, nous devons lui faire confiance entièrement et, comme je disais, accepter de passer pour des fous. Seigneur, regarde ce qu'ils ont dit de moi, que j'étais fou parce que j'annonce ta parole. Seigneur dit, réjouis-toi. Réjouis-toi de ce que les hommes disent que tu es fou, de ce que tu es fou. Nous devons, nous chrétiens, nous devons croire fermement à la parole de Dieu, même si c'est une folie aux yeux du monde. Si nous faisons entièrement confiance à Dieu, nous découvrirons que sa folie, si on peut parler de folie de Dieu, est la clé des richesses éternelles, d'une sagesse que le monde ne peut pas comprendre. Et même si on se moque de nous, encore une fois, peu importe, j'accepte d'être le fou de Christ. J'accepte d'être fou en Christ. Je vous laisse ce dernier verset. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Ne nous conformons pas à la soi-disant sagesse de ce siècle, parce qu'elle restera une folie aux yeux de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.